Donna s'arrêta sur la route de New Path. Au-dessous d'eux, dans toutes les directions, ils apercevaient les lumières de la ville. Pour lui, les douleurs avaient commencé. Elle s'en rendait bien compte et il ne leur restait plus beaucoup de temps. Elle avait voulu être avec lui une dernière fois, mais elle s'y prenait trop tard. Il pleurait et vomissait déjà. Sa poitrine se soulevait. « On va s'asseoir là quelques minutes, » dit-elle, en le guidant parmi les buissons et les mauvaises herbes, les détritus et les canettes de bière. Il marchait sur du sable. « Je... »« As-tu ta pipe à hache ?» parvint-il à bredouiller. « Oui. » Il fallait s'éloigner assez de la route pour ne pas être repéré par les flics, ou du moins pour pouvoir balancer la pipe si un flic s'amenait. Elle verrait la voiture de patrouille se garer, tout feu éteint, à quelques distances, et le policier s'approcher à pied. Elle aurait le temps. Le temps, songea-t-elle. Le temps de s'abriter de la loi. Mais le temps, il n'en restait plus pour Bob Arctor. Le sien était épuisé, en tout cas selon les critères humains. Bob venait de pénétrer dans une durée d'une autre espèce, celle qu'on accorde à un rat et qui lui permet de courir vainement d'un point à un autre avant de revenir sur ses pas, de s'agiter sans but, courir, revenir. Du moins, Bob peut-il contempler les lumières au-dessous de nous, si ça a encore la moindre importance pour lui. Ils trouvèrent un coin abrité. Elle tira le morceau de hache enveloppé dans du papier d'argent, bourra la pipe et l'alluma. À côté d'elle, Bob ne parut rien remarquer. Il s'était sali, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien faire pour l'aider. D'ailleurs, il ne s'en rendait sans doute pas compte. Ils passaient tous par là en cours de sevrage. Là. Elle se pencha vers lui pour la supercharge, mais il ne remarqua rien. Plié en deux par les crampes d'estomac, il vomissait et se salissait, tremblait, poussait des gémissements qui ressemblaient à une chanson folle. Ça lui fit penser à un gars qu'elle avait connu jadis et qui avait vu Dieu. Il s'était comporté de la même manière, pleurant et gémissant, mais sans se salir. Il avait vu Dieu dans un flashback, après une prise d'acide. Le type tentait des expériences avec les vitamines solubles et en dose massive. La formule orthomoléculaire était censée stimuler la transmission nerveuse, l'accélérer et la mettre en phase. Mais au lieu de devenir plus malin, ce gars avait vu Dieu. Il en était resté baba. « Je crois, » dit Donna, « qu'on ne sait jamais ce qui nous attend. » La seule réponse de Bob fut une nouvelle plainte. « As-tu connu un mec nommé Tony Amsterdam ?» Cette fois, aucune réponse. Donna aspira une bouffée de la pipe et laissa son regard errer sur les lumières. Elle huma l'air de la nuit, écouta ses bruits. Après avoir vu Dieu, il s'est vraiment senti mieux pendant près d'un an. Et puis c'est allé très mal, pire qu'à aucun autre moment de son existence. Parce qu'un jour, il s'est rendu compte qu'il ne reverrait pas Dieu. Il vivrait le reste de ses jours, des années et des années, peut-être un demi-siècle, sans voir autre chose que ce qu'il avait toujours eu l'habitude de voir, ce que nous voyons tous les jours. C'était pire que de n'avoir jamais vu Dieu pour lui. Il m'a dit qu'un jour, il était devenu complètement fou, le vrai flip. Il avait commencé à hurler et à tout casser chez lui, même sa stéréo. Il avait brusquement compris qu'il allait devoir continuer à vivre tel qu'il était, sans rien voir, sans but. Rien qu'un bout de viande qui se traînait lamentablement, qui bouffait, buvait, dormait, bossait, chiait. Comme nous tous. C'était le premier propos cohérent de Bob, et il devait s'arracher les mots entre deux spasmes. C'est ce que je lui ai dit. Je le lui ai bien expliqué. On est tous dans le même bateau, et ça ne fait pas flipper le reste d'entre nous. Il s'est contenté de répondre « Tu ne sais pas ce que j'ai vu. Tu ne peux pas savoir. » Une autre convulsion agita le corps de Bob. Il faillit s'étouffer en essayant de parler. « A-t-il dit à quoi ça ressemblait ?» Des étincelles. Une pluie d'étincelles colorées, comme quand ta télé se met à déconner. Des étincelles sur les murs, dans l'air, et le monde entier, où qu'il regarde, était un être vivant. Et sans fausse note, tout collait ensemble, rien n'arrivait au hasard. Tout avait un but, servait un but dans l'avenir. Puis il a aperçu un encadrement de porte. Pendant une semaine, il le voyait partout où il posait son regard. Chez lui, dehors, quand il allait faire une course, au volant de sa voiture. Toujours les mêmes proportions. Très étroit. Il a dit que c'était très agréable, c'est le mot qu'il a utilisé. Il n'a jamais tenté de franchir le seuil. Il se contentait de le regarder, tellement c'était agréable. Silhouetté en rouge vif sur une lumière dorée. Comme si les étincelles avaient formé des lignes, comme en géométrie. Après ça, il ne l'a jamais revu de sa vie. Et voilà pourquoi il a flippé aussi durement. « Qui avait-il de l'autre côté ?» fit Bob au bout d'un moment. Il a dit qu'il y avait un autre univers de l'autre côté. Il pouvait l'apercevoir. Il n'a jamais franchi le seuil. C'est pour ça qu'il a tout cassé dans son appartement. Il n'a jamais songé à franchir le seuil. Il se contentait d'admirer l'encadrement et ensuite il n'a plus rien vu. Il était trop tard. La porte s'est ouverte pour lui pendant quelques jours, puis elle s'est refermée et a disparu à jamais. Il a eu beau prendre de l'acide et ses vitamines solubles, il n'a plus rien revu. Il n'a jamais retrouvé la combinaison.
« Qu'y avait-il de l'autre côté ?» répéta Bob.
« Il a dit qu'il y faisait toujours nuit. »«
Faisait nuit. »
« Il y avait un clair de lune et aussi de l'eau, toujours pareil. Rien ne bougeait, rien ne changeait. Une eau noire comme de l'encre et un rivage, une plage sur une île. Il était sûr qu'il s'agissait de la Grèce antique. Il s'est dit que cette porte était un défaut dans la trame du temps et qu'il voyait dans le passé. Plus tard, alors qu'il n'apercevait plus rien, il s'est retrouvé sur l'autoroute. Il conduisait parmi tous les camions et devenait de plus en plus enragé. Il disait qu'il ne pouvait plus supporter le mouvement ni le bruit, tous ces trucs qui filaient dans tous les sens, les bruits de ferraille et la pétarade. Il n'a jamais compris pourquoi on l'avait autorisé à voir ce qu'il avait vu. Il croyait vraiment que c'était Dieu et que la porte menait vers l'autre monde. Mais au bout du compte, ça n'a fait que lui mélanger la tête. Il n'a pas pu s'accrocher à sa vision et donc il n'a pas pu faire face. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, au bout d'un moment, il racontait qu'il avait tout perdu.
« Pour moi, c'est pareil, » fit Bob.
Il y avait une femme sur l'île. Enfin, pas exactement. Plutôt une statue. Il a dit que c'était l'Aphrodite cyrénaïque, froide et pâle sous la lune. Une Vénus de marbre.
Il aurait dû saisir sa chance et franchir le seuil.
Il n'a pas disposé de cette chance. Ce n'était qu'une promesse. Quelque chose à venir. Quelque chose de mieux dans le lointain des temps. Peut-être après qu'il...
Elle s'interrompit. Après sa mort. Il a raté sa chance, dit Bob. On n'en a qu'une, et puis c'est fini. Il ferma les yeux pour lutter contre la douleur.
La sueur sillonnait son visage.
Et puis, qu'est-ce qu'un type cramé à l'acide peut savoir? Et nous tous, que sait-on? Je n'arrive pas à parler. Laisse tomber.
Il se détourna, se réfugia dans le noir pour trembler et se tordre de douleur. Pour l'instant, on nous montre des bandes-annonces, fit Donna. Elle l'entoura de ses bras et le serra du mieux qu'elle put en le berçant, afin qu'on tienne le coup.
C'est ça que tu essaies de faire avec moi en ce moment, tenir le coup.
Tu es quelqu'un de bien. On t'a donné de mauvaises cartes, mais la vie n'est pas finie pour toi. Tu comptes beaucoup pour moi. Je voudrais... Elle continua de l'étreindre en silence, dans l'obscurité qui l'engloutissait, mais semblait venir du dedans. « Tu es quelqu'un de bien, » reprit-elle, « et de gentil. Et tout ceci n'est pas juste, mais on ne peut rien y changer. Essaie de tenir jusqu'au bout. Un jour très lointain, tu y verras clair comme avant. Ça te reviendra. Tout te sera rendu. Le jour où tout ce qui a été pris injustement aux gens leur sera rendu. Ça prendra peut-être 1000 ans ou plus, mais ce jour viendra, et le fléau de toutes les balances sera enfin juste. » Peut-être, tel Tony Amsterdam, as-tu reçu une vision de Dieu qui ne s'est effacée que pour un temps. Elle s'est retirée, mais sans se détruire. Peut-être de ton cerveau horriblement brûlé, des circuits qui achèvent de se consumer alors même que je te serre dans mes bras. Une étincelle colorée a-t-elle jailli que tu n'as pas encore reconnue, mais dont le souvenir te guidera au long des années noires que tu vas traverser. Un mot imparfaitement compris, une toute petite chose apparue mais non interprétée. Un fragment d'étoile mêlé à la boue de ce monde pour te guider d'instinct jusqu'au jour où... Mais c'était si loin. Elle ne parvenait pas elle-même à l'imaginer. Mêlé à la prose de ce monde, quelque chose d'un monde autre était peut-être apparu à Bob Arctor avant la fin. Elle ne pouvait pour l'instant que serrer Bob dans ses bras et espérer. Mais quand il retrouverait le fil,
la reconnaissance du modèle s'effectuerait. Évocation correcte dans l'hémisphère droit, même au niveau subcortical qui lui était seul accessible. Et le voyage qui le déchirait, ce voyage si coûteux et si vain, prendrait fin. Une lueur l'aveugla. Un flic, torche électrique dans une main et matraque dans l'autre, se tenait devant elle.
« Voulez-vous vous lever tous les deux ? » demanda-t-il. « Montrez-moi vos papiers. Vous d'abord, miss. »
Elle lâcha Bob, qui glissa sur le côté et resta allongé par terre. Il ne voyait même pas le flic qui avait gravi furtivement un chemin de traverse pour les surprendre. Donna tira un portefeuille de son sac à main et fit signe au flic de la suivre à l'écart, là où Bob ne pourrait les entendre. Le policier passa plusieurs minutes à examiner ses papiers à la lueur de sa torche, puis
« Vous travaillez pour les fédéraux ?»«
Pas si fort !» fit Donna.
« Excusez-moi. »
Il lui rendit le portefeuille. « Contentez-vous de foutre le camp !» Le flic braqua un instant sa torche sur le visage de Donna, puis tourna les talons et s'éloigna comme il était venu, sans un bruit. Lorsqu'elle revint près de Bob, elle sentit nettement qu'il ne s'était aperçu de rien. D'ailleurs, de quoi était-il encore conscient ? À peine de sa présence à elle, alors le reste. Loin au-dessous d'elle, Donna entendait faiblement la voiture de patrouille qui redescendait le chemin plein d'ornières. Quelques insectes, un lézard peut-être, froissaient l'herbe sèche autour d'eux. À l'horizon, la route 91 brillait telle une constellation, mais aucun son ne leur parvenait. C'était trop loin. « Bob, » fit-elle doucement, « tu m'entends ?» Pas de réponse. Tous les circuits sont claqués, toutes les pièces fondues, songea-t-elle, et personne ne parviendra à les rétablir, si dur qu'on essaie, et on essaiera dur. « Allons, » dit-elle, en le tirant par la manche, en s'efforçant de le remettre debout. « Il est temps de reprendre la route. »«
Je ne peux plus faire l'amour, » dit Bob. « Mon truc a disparu. »«
Ils nous attendent. » Le ton de Donna était ferme. « Il faut que je signe ton admission. »«
Qu'est-ce que je vais faire si mon truc a disparu ? Ils me prendront quand même ?»«
Oui, ils te prendront. » »« Il faut posséder la plus haute forme de sagesse, » songea-t-elle, « pour savoir quand on doit recourir à l'injustice. »« Comment la justice peut-elle jamais devenir victime du droit ? Comment ça peut arriver ? C'est qu'une malédiction pèse sur ce monde, et j'en ai la preuve sous les yeux. » Quelque part, au niveau le plus profond, le mécanisme, le tissu des choses a craqué. Et des lambeaux épars est né ce besoin qui nous pousse aux injustices les plus troubles, au nom du choix le plus sage. Ça a dû commencer il y a des millénaires. Et maintenant, la nature des choses en est tout imprégnée. Ça s'est infiltré en chacun de nous. Nous ne pouvons ouvrir la bouche ou faire un geste, prendre la moindre décision, sans que ce soit visible. Peu m'importe d'ailleurs comment, quand ou pourquoi ça a commencé. Je me contente d'espérer que ça finira un jour, comme pour Tony Amsterdam. J'espère revoir un jour l'averse d'étincelles aux couleurs vives, et j'espère que ce jour-là, nous la verrons tous, la porte étroite qui franchit nous mène à la paix. Une statue, la mer, et quelque chose qui ressemble à un bain de lune. Et rien pour venir briser ce calme. En un temps plus que lointain, avant la malédiction, avant que tout, et chacun devienne ce qu'il est aujourd'hui. L'âge d'or, quand justice et sagesse se confondaient, avant que tout éclate et retombe en fragments coupants, en échardes qu'on ne peut réarranger, aussi dur qu'on essaie. Au-dessous d'elle, dans l'obscurité découpée par le pointillé des lumières de la ville, une sirène hurla, une voiture de police en pleine action. C'était le cri d'un animal rendu fou par la proximité de la curée. Elle frissonna. L'air de la nuit était froid, tout à coup. Il fallait partir. « On ne voit pas l'âge d'or, » pensa-t-elle, « tant qu'on entend des bruits comme celui-ci dans la nuit. Et moi, est-ce que j'aimais un bruit aussi vorace ? Suis-je cette chose qui tient sa proie aux abois, qui a déjà effectué sa prise ?» À côté d'elle, l'homme remua et gémit, tandis qu'elle l'aidait à se relever. L'aidait à se relever et le guidait pas à pas vers sa voiture, l'aidait, le forçait à tenir. Au-dessous d'eux, le bruit du véhicule de patrouille s'était tu brusquement. La bête était à l'arrêt. Elle avait fait son travail. « Comme j'ai fait le mien, » se dit-elle en serrant Bob contre elle. Les deux types du personnel de New Path regardaient la chose qui se tordait sur le sol en frémissant et en vomissant. La chose se salissait, elle s'étreignait elle-même comme pour se forcer à s'arrêter, pour lutter contre le froid qui la faisait trembler.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda un des types.
« C'est un humain, » répondit Donna.
« Substance M ?» Elle hocha la tête. « Ça lui a bouffé la tête. Encore un perdant. »
Elle s'adressa aux deux à la fois. « C'est facile de gagner. N'importe qui peut gagner. » En se penchant au-dessus de Robert Arctor, elle ajouta silencieusement « Adieu. » Il tirait une vieille couverture de l'armée au-dessus de sa tête quand elle partit. Elle ne se retourna pas. Elle s'installa au volant et gagna l'autoroute la plus proche, se perdit dans la circulation la plus intense. Parmi ses cassettes, elle choisit « Tapestry » de Carole King, sa préférée, et l'engagea dans le lecteur. Elle prit le pistolet Luger collé magnétiquement sous sa planche de bord. À toute allure, elle colla au train d'un camion de Coca-Cola et au son de Carole King, en stéréo, elle vida son chargeur sur les bouteilles qu'elle apercevait, alignées dans leur casier de bois, à quelques mètres devant elle. Pendant que la voix apaisante de Carole King évoquait des gens qui devenaient crapauds, elle parvint à toucher quatre bouteilles avant d'épuiser ses munitions. Des frottis de coca maculaient son pare-brise. Des débris de verre le frappaient. Elle se sentit mieux. Justice, honnêteté, loyauté ne sont pas de ce monde, songea-t-elle. Et vlan, elle emboutit son vieil ennemi, son adversaire de longue date, le camion de coca qui poursuivit sa route sans rien sentir. Le choc rejeta brutalement sa petite auto qui fit un tête-à-queue. Ses phares faiblirent. Elle entendit l'horrible hurlement d'un pneu frottant une aile et se retrouva sur l'aire de sécurité à contresens, tandis que l'eau jaillissait de son radiateur. Les automobilistes ralentissaient au passage en écarquillant les yeux. « Reviens, fils de pute !» implora-t-elle. Mais le camion de coca était loin et ne devait pas porter la moindre éraflure. Peut-être une toute petite égratignure. Tôt ou tard, ça devait arriver. C'était sa guerre, après tout. Un jour ou l'autre, elle allait attaquer un symbole, une réalité face à laquelle elle ne ferait pas le poids. « Sûr que mes cotisations d'assurance vont monter après ça, » se dit-elle, en mettant pied à terre. Dans ce monde, quand on joue contre le mal, on paie en monnaie dure. Une Ford Mustang ralentit près d'elle, et le chauffeur, un type, l'interpella.
« Je peux vous déposer, mademoiselle ?»
Elle ne répondit pas. Elle poursuivit sa route. Une silhouette fragile face à la bande infinie des feux braqués vers elle.